Alors, je vous présente le conférencier de ce soir. Je le remercie, comme tous les physiciens d'ailleurs et les chimistes, d'avoir accepté de venir parler au mois d'août, à un moment difficile, mais enfin, ils peuvent voir qu'avec le public, ce n'est pas en vain. Étienne Guyon est né en 1935. Il est ancien élève d'école normale supérieure, agrégé de physique. Il est actuellement directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Il est donc physicien. De 61 à 71, il a créé le laboratoire de supraconductivité à l'université de Orsay sous la direction de Pierre-Gilles Degène. Il a été ensuite chercheur à l'université de Californie, Los Angeles. De 78 à 88, il a créé et animé le laboratoire d'hydrodynamique et de mécanique physique à l'école de physique et de chimie. Bon, il a exercé de nombreuses fonctions, directeur du Palais de la Découverte, et puis depuis 1990, directeur de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Publication, puisque bien sûr il y a des articles scientifiques spécialisés dans des revues qu'on appelle traditionnellement un comité de lecture, c'est-à-dire qu'ils ne publient pas n'importe quoi, mais il y a des ouvrages plus grand public accessibles que je vais indiquer tout de suite. Du sac de billes au tas de sable, en collaboration avec Jean-Paul Troeck aux éditions Odile Jacob, Forme fractale aux éditions du Palais de la Découverte, et puis très récemment, il pourra les montrer, il les a ici, Granit et fumée, un peu d'ordre dans le mélange, en collaboration avec Jean-Pierre Hulin, toujours aux éditions Odile Jacob.
Merci. Peut-être qu'en fait, ce soir, j'aurais dû vous parler moins du tas de sable, mais plutôt de la diffusion Rayleigh, c'est-à-dire du ciel bleu, puisqu'en fait, c'est pas si souvent que ça que nous avons ce temps à Paris. Mais le sujet était défini avant, donc il s'agit d'un sujet double. La matière molle, qui est une sorte d'ensemble de systèmes assez variés, à l'intérieur desquels on va trouver le tas de sable qui, effectivement, peut se déformer, peut s'écraser. Alors, en fait, donc, il y a un sujet qui en inclut un autre, et je vais commencer par vous dire quelques mots sur cette matière molle. D'abord, pour vous dire que je ne suis pas très content que ça s'appelle matière molle, ce n'est pas beau, mou. Dans les anglo-saxons ont trouvé mieux. Ils ont dit « soft matter », la matière douce. C'est mieux dans un sens, mais ça ne dit pas exactement la même chose. Pierre-Gilles Degène, quand il a écrit avec Jacques Badoz un livre, il a trouvé plus joli, encore plus inexact, les objets fragiles, parce qu'on peut être fragile sans être mou ou mou sans être fragile. Et nous avons souvent parlé de systèmes moléculaires organisés. J'ai participé cette année à un groupe de l'Académie des sciences qui s'intéressait à ce sujet, parce que nous allons voir qu'effectivement beaucoup de ces systèmes sont des systèmes dans lesquels il y a des organisations moléculaires plus ou moins complexe, ou en cas de matière mal condensée, la matière condensée décrivant les états où les atomes, les molécules sont sous forme compacte, mal condensée parce qu'on va le voir, c'est désordonné. C'est vraiment une physique tout à fait sale, mais qui peut être tout à fait agréable aussi, et j'en en prends comme exemple que le cas de l'alimentaire, qui est un des exemples de matière molle, auquel on peut parler de sauce, de soufflé, de gelée. Et si on pense à des systèmes moléculaires organisés, on va mettre en face des émulsions, des mousses et des gels, qui sont des objets bien identifiés de cette matière mal condensée. Il se trouve que, prenant l'avion l'an dernier, je suis tombé dans la revue Air France pour vous montrer que nous avons affaire à une science tout à fait au quotidien, sur cet article de la revue Air France dans lequel on nous montrait justement une émulsion, une mousse, une gelée, et objet éminemment déformable que nous goûtons, et on mettait côte à côte mon ami Hervétis qui vient de passer sa thèse d'habilitation, j'étais dans le jury d'habilitation avec un grand chef cuisinier il y a quelques jours, le pot de thèse était particulièrement bon, et Hervétis étant l'héritier de Brillat Savarin, qui fut un théoricien du goût, et cette gastronomie moléculaire, comme on l'appelle, est un des sujets, je dirais, actifs, un des nombreux sujets actifs de cette matière molle, et j'aimerais bien trouver un mot qui, en fait, soit plus agréable, plus plaisant, pour en particulier caractériser les choses qui ont à voir avec le goût, qui ont à voir avec un certain nombre de sujets très agréables, comme en particulier le tas de sable. Alors évidemment, on peut dire que ça n'est pas, c'est un sujet peut-être amusant, mais si je prends le très sérieux journal Nature, l'an dernier, ils ont une grande discussion portait sur la façon dont il faut tremper son biscuit dans sa tasse de thé pour pouvoir effectivement faire remonter le thé le long du biscuit, augmenter, exalter le goût, mais en même temps éviter que le biscuit ne se déforme par trop. Alors on m'avait demandé de mettre des équations, moi je n'ai pas mis d'équation du tout, mais si on avait, eh bien, il y aurait une équation qui décrirait la rapidité avec laquelle le thé va monter le long du biscuit, et la recette je vous la donne, il faut que le biscuit soit pratiquement tangent au thé pour que la partie inférieure soit mouillée, mais que la partie supérieure reste rigide, pour évidemment ne pas s'effondrer bêtement à l'intérieur de la tasse de thé. Donc nous avons un sujet mal défini, avec un mot pas très joli, mais ce qu'il représente, c'est en l'occurrence beaucoup plus une communauté qu'une discipline. Et cette communauté, elle a trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est que c'est une communauté de gens qui s'intéressent à la mécanique, nous dirons plus précisément à la rhéologie, je vais le dire, qui s'intéresse aux déformations et aux écoulements de la matière, puisqu'on est de matière molle. Nous avons affaire à des gens qui s'intéressent à la physico-chimie, qui vont s'intéresser aux polymères, que l'on retrouve en particulier dans les gelées, qui vont s'intéresser aux interfaces, c'est-à-dire à ce qui se trouve entre deux espèces incompatibles. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans une mousse ou dans un soufflé. On va y retrouver de ces physiciens de la matière mal condensé. Lorsque je me suis intéressé avec Pierre-Gilles de Gennes à ce sujet, nous sortions tous les deux de la matière bien condensée pour pouvoir appliquer à ces systèmes beaucoup plus désordonnés. Et enfin, la communauté où je me reconnais le plus volontiers est celle de la physique statistique, dans laquelle nous avons à prendre en compte des systèmes qui sont hétérogènes. Il existe plusieurs phases. Dans une gelée, il y a de l'air et puis il y a du chocolat, ou dans une mousse. Dans un gel, il y a un réseau de polymères et il y a un liquide entre les deux. Ce système est en général désordonné et nous verrons, nous insisterons sur le fait qu'il y a des échelles multiples. Mais je ne veux pas passer trop de temps sur cela, sur ces exemples culinaires. Je n'en garderai qu'un seul pour montrer comment se combinent à la fois les caractéristiques du mécanicien, du physico-chimiste et du physicien statisticien. J'ai pris un exemple sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler à l'école de physique et chimie, qui est l'exemple d'un gel. Donc, quand nous prenons un réseau, un ensemble de molécules de polymères, elles se trouvent un peu comme un plat de pâtes, elles peuvent glisser, elles peuvent s'écouler les unes par rapport aux autres. Nous savons toute la difficulté qu'il y a à manger certains plats de pâtes sans faire glisser. Mais si au lieu de ça, vous avez soudé suffisamment entre eux ces chaînes de polymères, nous allons pouvoir avoir un comportement plus solide. Ça serait par exemple le plat de pâtes refroidi avec du fromage qui tient entre les pâtes. Pas très agréable. Alors voici un gel formé. Donc c'est de la physico-chimie parce qu'il y a pratiquement les gels, nous connaissons la gélatine, nous connaissons xanthane, nous connaissons les gels qui sont des gelées de peptine, peptase. Nous connaissons beaucoup moins pour en général les gels qu'on appelle chimiques, où c'est des réactions chimiques qui les produisent, sauf peut-être dans le cas de la vulcanisation, où c'est des liens de soufre qui attachent entre elles des longues molécules et qui font que le caoutchouc cuit est un solide élastique. Donc, physico-chimie très variée, très riche, et en même temps, une unité de sujet, puisque la propriété que je suis en train de montrer, c'est que si on crée, comme je l'ai dit, on crée des liens entre des chaînes de polymères, qu'on augmente le nombre de liens, au début, nous avons affaire à un ensemble, un enchevêtrement visqueux. En augmentant les liens, cette viscosité va augmenter jusqu'à diverger. Et à partir de ce moment-là, le comportement va être élastique. Alors voici un comportement que nous avons beaucoup étudié. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, alors que les systèmes physico-chimiques sont extrêmement variés, eh bien le comportement de ces lois qui étaient présentées, par exemple ici, j'imagine, il y a quelques jours, par Édouard Brézin, est un comportement que nous appelons universel. C'est-à-dire qu'il y a des lois générales qui vont décrire la puissance avec laquelle la viscosité diverge, avec un exposant négatif. On m'a dit de mettre une équation, je vais en mettre une quand même. La viscosité va diverger comme quelque chose comme la concentration critique moins la concentration avec un exposant négatif. le module élastique, c'est-à-dire le système devient un solide, il va augmenter comme, pardon, C moins, si c'est critique moins C, puisque C moins C critique avec un exposant positif, eh bien, ce qui va être important, c'est que les exposants, les valeurs S et T, sont totalement indépendantes du système physico-chimique auquel on a affaire. Donc le physicien statisticien, à côté du physico-chimiste, va mettre, je dirais en quelque sorte, un petit peu d'ordre, un peu d'universalité dans ces problèmes très variés. Le mécanicien, lui, il apporte quelque chose de différent. On connaît que la mécanique des solides va nous permettre de comprendre la relation qui existe entre des efforts appliqués à un solide et les déformations. Le mécanicien des fluides, lui, regarde comment les efforts créent des écoulements. Eh bien, le rhéologue, lui, va s'intéresser à des systèmes qui peuvent être très variés. Et d'ailleurs, dans ces gels, nous sommes jamais très bien sûrs que notre gelée de groseille, celle que je risque de faire, surtout de framboise, en fin du mois d'août dans ma montagne, a bien prise. Si nous secouons, effectivement, il se peut que la gelée n'ait pas tout à fait pris, mais que néanmoins, elle ait relativement l'allure d'un solide. Et en vous attendant, je faisais cette expérience que vous avez, que tout bon cuisinier, tout bon cuisinier a faite, qui consiste simplement à prendre de la maïzena, disons-le, et on voit très bien que si j'enfonce brutalement dans cette maïzena, j'ai l'impression d'avoir affaire à un solide, alors que si je laisse aller et que je sors, eh bien, le système se comporte comme un liquide visqueux, des petites gouttes tombent, et je peux très facilement touiller. Finalement, ces comportements intermédiaires ont été caractérisés, j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années, ont été décrits à l'aide d'un nombre qu'on appelle le nombre de Deborah. Et pour une fois, Deborah n'est pas un physicien ou une physicienne. Deborah est une prêtresse, est une prophétesse de la Bible. Et si vous regardez le livre des Juges au chapitre 5 et au verset 5, vous y verrez « Les montagnes s'écoulèrent devant le Seigneur, Yahvé, Dieu d'Israël ». La durée de vie de Yahvé est évidemment infiniment plus longue que celle des montagnes, donc les montagnes ont le temps d'avoir un comportement liquide. Et le nombre de Déborah, de ce point de vue-là, caractérise essentiellement le temps nécessaire pour faire cette déformation, le temps que des molécules se débobinent, le temps divisé, par exemple, par le temps auquel on applique la sollicitation. Donc il y a un temps de la naturelle, et bien, suivant qu'on fait quelque chose de très rapide ou de très lent, eh bien, nous aurons un comportement solide ou liquide. Dans le cas des tas de sable dont nous allons parler dans 5 minutes, un exemple typique serait celui des sables mouvants, pour lesquels le comportement peut être plus ou moins solide, suivant le comportement. Alors, quand nous sommes intéressés à ce sujet avec De Gennes, nous avons initié une communauté que nous avions appelée, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'alimentaire, les MIAM, qui veut dire milieu aléatoire macroscopique. Et ce qui nous avait séduit dans cette approche, c'était d'abord qu'il s'agissait de prendre une science relativement au quotidien, mais qu'en plus de ça, nous avions des outils, qui étaient les outils qu'avait développé la physique statistique et la physique la matière mal condensée, en s'intéressant à des choses comme des verres, des matériaux amorphes, des alliages, c'est-à-dire des matériaux composites et sales, beaucoup moins beaux que le vrai cristal. Et le principe qui nous a guidés là-dedans, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe des 3M. Micro, méso, macro. Je construis un pont, je suis un ingénieur, je veux comprendre effectivement l'ouvrage d'art dans sa totalité, faire de la résistance des matériaux. Je peux, à l'autre extrême, dire je vais m'intéresser à savoir comment un grain solide est entouré de ciment et quelles sont les propriétés mécaniques. Et l'idée naturelle serait de dire, une fois que j'ai compris ce qui se passe autour d'un grain, je mets beaucoup de grains côte à côte, je réalise un solide et je vais faire une opération qu'on appelle homogénéiser, c'est-à-dire aller du plus petit au plus grand. Eh bien, en fait, ça ne marche pas toujours. Et nous nous sommes intéressés au cas où ça ne marchait pas, c'est-à-dire au cas où ce qui est intéressant, c'est de caractériser l'ensemble des échelles de ce système et non pas simplement micro-macro, mais micro-méso-macro. Et nous allons voir des exemples dans lesquels ces échelles multiples jouent. Quelques jours, je pense que vous avez eu Benoît Mandelbrot qui est venu vous parler des fractales. Le système fractal sont des systèmes dans lesquels, justement, il est tout à fait essentiel de réaliser que le système, on ne peut pas le décrire simplement par le tout et le 1, le penta et le n des Grecs, mais il faut décrire justement l'ensemble des échelles qui constituent le système. Et donc c'est cette progression micro, méso, macro qui caractérise l'approche, et j'en donnerai un exemple. Alors voilà, c'était pour la description un peu générale de ce qu'était cette matière molle. Passons au tas de sable ou passons au milieu granulaire. J'aurais pris des exemples, j'aurais pu faire des expériences. Eh bien voilà, voilà, c'est du sable. Ça, c'est des noix que je viens de ramener d'Afrique du Sud, des noix de macadamia. Ça, c'est simplement des balles de ping-pong. On peut se demander qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça. Eh bien, beaucoup ou peu, suivant la façon dont on regarde. Est-ce que nous intéressons au grain, au 1, au N, ou est-ce qu'on est intéressant au tout, au tas? Alors effectivement, si je mets 3-4 billes, j'ai l'impression que j'ai plutôt envie de regarder comment ces balles se mettent les unes par rapport aux autres. Par contre, si je regarde un tas, ici un ensemble, j'ai plutôt envie de regarder le tout. C'est quelque chose qui intervient dans la pensée philosophique sous le nom de sorite. Le sorite est le tas, c'est-à-dire vous avez beau mettre beaucoup de grains ensemble, il y a un moment où il devient un tas, et le tas arrive à ignorer les propriétés des éléments qu'il constitue. Donc nous sommes dans une situation complexe dans laquelle le tas est beaucoup plus, que ce soit des noix de macadamia, je vous l'ai dit, mais vous auriez pu croire que c'est des billes, on s'en fiche totalement, ce qui est important c'est que ça forme un tas. Donc ce qui va m'intéresser c'est cette physique du tas, et cette physique intéresse les scientifiques depuis pas mal de temps, mais les physiciens depuis peu de temps. Vous avez ici la sérieuse, très sérieuse revue qui s'appelle Nature, qui publie il y a 2 ans une couverture dans laquelle on voit un château de sable et qui demande qu'est-ce qui fait que les châteaux de sable tiennent. Heureusement que les enfants n'ont pas attendu Nature pour en faire. Mais je dois dire que ce château de sable est particulièrement réussi. Les concours de plage n'en font pas des beaux comme ça. Et alors cette physique du tas de sable, du sac de billes, est une physique qui est très intéressante et très ancienne. Et je vais la décrire en trois éléments. D'abord, en vous parlant de l'archétype de ce sac de billes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est commun à finalement ces différentes descriptions. Vous parlez du tas solide et vous parlez après de ses écoulements et vous donnez quelques références. Un livre que nous avons écrit avec un de mes collègues, Jean-Paul Troadec, un très bon livre, plus scientifique, de Jacques Durand, Sable, Poux des Grains, et un film que j'ai réalisé avec Alexis Martinet, qui s'appelle La physique du sac de billes, au CNRS Images Média. Et quand nous avons fait, au départ, parce que j'ai vu qu'on pouvait travailler, nous avons écrit avec Jean-Paul Troadec ce livre, en écrivant du sac de billes au tas de sable, nous avions l'idée que le sac de billes représente un modèle, c'est-à-dire les billes, ce sont des objets durs, qui sont peu déformables, et puis le tas de sable, c'est la réalité. Donc ce que nous voulions dire, c'est en quelque sorte, comment peut-on faire des allers-retours entre modèle et réalité. Et c'est un peu ce qui nous a intéressés, et ce qui nous a intéressés était surtout, lorsque nous avons commencé à faire ce travail avec notre équipe autour de Degène, moi-même et d'autres amis, ça a été de dire, mais il y a beaucoup de communautés qui sont intéressées au milieu granulaire. Essayons d'en faire une seule science. Alors voilà, les communautés, elles sont très variées, je peux les décliner très rapidement, parce que vous en connaissez certainement. Le génie civil, qui effectivement utilise les matériaux de construction, la métallurgie des poudres, des céramiques, des frités, qui sont ces objets qu'on a soudés à chaud, et qui étaient utilisés dans la métallurgie dans l'Antiquité, quand on ne savait pas fondre des matériaux. L'ingénierie militaire, bien sûr. Le génie des procédés, on a intérêt très souvent pour faire des réactions chimiques, à utiliser une matière à un état très divisé, l'alimentaire, les géosciences, il faut voir que 90% de la surface de la Terre est recouverte de grains libres ou de grains soudés, comme des roches sédimentaires, l'industrie alimentaire, bien évidemment, la chimie physique et même l'astrophysique, qui s'intéresse beaucoup à des problèmes tels que les anneaux planétaires ou la façon dont les planètes se sont constituées par agrégation de grains. Alors le premier élément, c'est que ce sac de billes, très dispersé dans beaucoup d'études, a quand même une unité historique et une unité renouvelée. On le trouve bien évidemment dans la philosophie grecque classique, Démocrite, Épicure, Lucrèce qui regarde dans un rayon de lumière les petits grains et qui en fait ont déduit un modèle des gaz, alors que Démocrite et Épicure pensent finalement à l'état solide et à l'atomisme, les premiers, le sorite dont je vous ai parlé, Kepler, Newton, Buffon, etc. Et ce qui va caractériser ces modèles va être quelque chose d'assez remarquable, c'est que si vous faites un modèle et qu'il a beaucoup de paramètres, c'est très intraitable. Or, nous avons, à travers ces ensembles de billes, nous avons finalement très très peu de paramètres. Il est peu important de savoir si je traite des balles de ping-pong ou des boulettes canon sphériques. La taille n'intervient pas. Et si en plus de ça, les objets ne sont pas déformables, aucun paramètre n'intervient. Ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'on a en permanence, c'est ce que je disais pour le sac de billes ou le tas de sable, à faire un aller-retour entre le modèle et la réalité, l'un enrichissant l'autre. Et en particulier, le grand bénéfice ce dont nous avons largement profité dans les 20 dernières années pour comprendre nos sacs de billes, c'est qu'après-guerre, toute une école de physiciens statisticiens se sont intéressés aux théories des liquides, en modélisant par ce qu'on appelle les modèles de dynamique moléculaire, comment le liquide ou les gaz denses sont constitués de petites particules comme des boules qui se choquent entre elles. Et bien, partant de la connaissance microscopique du liquide, on a pu élaborer des modèles pour la connaissance macroscopique du tas de sable. Et le sujet reste un sujet extrêmement actif. Alors, historiquement, je l'ai dit, ces empilements ont servi à comprendre la matière. Voici deux exemples, un historique et l'autre marché Mouffetard. Le marché Mouffetard, c'est qu'effectivement, il suffit de regarder un étal d'orange pour voir comment les grains sont bien empilés, les oranges, pardon, et comment elles réalisent ce qui modélise des faces cristallines. Et l'abbé Aoui, qui enseignait en fin du siècle dernier à l'école des mines, je suis sûr, à l'école normale, la seule année où il a existé, je ne sais pas si à l'école polytechnique il a enseigné, mais en tout cas il a été longtemps professeur au muséum après, découvre finalement la connexion qui peut exister entre une valeur atomique et puis finalement le cristal en empilant des cubes. Alors on pourrait dire, la nature elle va faire ça tout le temps. Elle va empiler des grains, elle va empiler des atomes pour faire des cristaux, c'est vrai. Elle empile quand même pas si souvent des gros grains pour faire des matériaux. Voici un contre-exemple. Le contre-exemple, c'est une opale. Nous savons toutes ces belles couleurs que représente l'opale. Eh bien, les couleurs sont dues au fait que l'opale est obtenue par des petits grains de silice, tous de même taille, produits naturellement, empilés de façon régulière. Et les couleurs changeantes de l'opale sont dues essentiellement au fait que la lumière blanche qui arrive, est réfléchie sélectivement dans certaines directions et dans certaines couleurs, et qu'en changeant l'incidence, comme certains effets sur des ailes de papillon, par exemple, on va changer la couleur qui réfléchit. Mais ça, c'est rare. La plupart du temps, quand on va prendre une couverture de journal, il y a 2 ans, quand on va prendre un sac de billes ou un tas de sable et qu'on va le regarder en détail, on s'aperçoit qu'il est tout ce qu'il y a de plus désordonné. Est désordonné parce qu'on a affaire à des matériaux différents, ils n'ont pas tous la même taille, mais même si on avait mis des objets tous identiques, eh bien, ils seraient néanmoins désordonnés. Donc, nous arrivons au comble du désordre avec ce sac de billes ou avec ce tas de sable, et même avec un sac de billes fait avec des billes toutes identiques. Et ces désordres, ils sont nombreux. Le premier désordre, c'est le désordre de position. Sauf si vous avez pris un soin, comme ce maraîcher qui a mis ses oranges empilées en ordre, si vous avez pris un soin extrême, en mettant des billes dans un seau, vous obtiendrez toujours un empilement désordonné. C'est quelque chose qui est bien compris, qui est lié au fait que finalement la nature n'est pas toujours aussi gentille qu'on le voudrait. À 3, quand on met des billes les unes à côté des autres, la façon la plus simple de mettre 4 billes, c'est de faire un petit tétraèdre comme ça. Et quand on met des tétraèdres les uns autour des autres, eh bien on peut en mettre 5. Et 5, c'est totalement incompatible avec un ordre cristallin. Donc, en fait, je ne vais pas faire la théorie de cette chose-là, mais géométriquement, il est très difficile de réaliser naturellement un empilement cristallin avec des billes même de même diamètre. Même si on les mettait en contact, les contacts ne sont pas tous égaux. Certains sont bons, certains sont pas beaux. Et si, par exemple, si je m'intéresse, comme c'était le cas pour Édouard Branly en fin du siècle dernier, à mettre des grains conducteurs en contact, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de contacts sont inexistants et, effectivement, qu'il faudra quelque chose pour établir ces contacts. Pour Branly, vous le savez, c'est effectivement approcher une onde électromagnétique. Et nous savons que le cohéreur de Branly a été le premier détecteur pratique des ondes radio. Ce désordre, on va le voir, il peut être modifié par des sollicitations. L'effet Branly, c'est ce que j'ai raconté, c'est d'approcher une onde électromagnétique. C'est de l'ordre de la magie. Pour moi, ça reste l'ordre de la magie. Il faut dire que Branly était à l'Institut catholique. Et la mécanique, on verra des effets plus importants. Et puis enfin, finalement, le désordre, il peut être dû simplement au fait que l'objet que nous avons pris en compte possède des grains de nature différentes. Par exemple, des grains qui conduisent, des grains conducteurs et des grains isolants. Et en fait, les premiers travaux que j'ai faits avec des étudiants sur ces problèmes d'empilement consistaient à regarder comment des grains conducteurs et isolants mis en désordre réalisaient des systèmes conducteurs et isolants, c'est-à-dire avec une transition qui, de façon tout à fait paradoxale ou étonnante, ressemble exactement à la transition que je vous ai montrée qui fait qu'on passe d'un comportement visqueux à un comportement élastique dans un gel. Ceci étant lié à un modèle qu'on appelle la théorie de la percolation, qui est une des grandes théories qui permet justement de décrire ces systèmes désordonnés. Alors, juste une petite incidente, parce que je m'intéresse beaucoup au problème de construction et de ponts et chaussées, même si j'en ai pas l'air et je suis plutôt de sciences fondamentales. Là, une des questions qui va se poser, si je veux regarder l'aspect solide de ces systèmes granulaires, c'est effectivement comment peut-on en améliorer les propriétés mécaniques. On peut essayer de comprimer. Nous savons très bien que du paquet de café sous vide a de l'élasticité, mais dès le moment où on desserre les grains, il perd toute élasticité. Et nous connaissons effectivement les notions de béton précontraint et le travail à Ranquer de Fraissinet sur ces bétons précontraints. On peut augmenter la compacité en remplissant avec des grains de taille différente. C'est quelque chose qui est intéressant et important parce que, à la fois, en faisant ça, on va diminuer les vides, on va diminuer la quantité d'eau, et pour un béton, par exemple, l'eau risque d'être quelque chose qui perturbe, c'est aussi quelque chose qui conduit à des dégradations. Et puis, on peut aussi souder les grains entre eux par ce qu'on appelle le frittage, par une soudure, ou en ayant des grains réactifs. Alors voilà les trois opérations. Le premier, c'est que si au lieu de prendre des grains tous de même taille, je mets un mélange de grains, on augmente la compacité, c'est-à-dire la fraction du volume occupé par le solide, ou ce qui revient au même, on diminue la porosité, c'est-à-dire la fraction du volume occupé par les vides. Et le cas limite traité 5 siècles avant notre ère, par Apollonius de Perga, consistait à faire ce qu'on appelle un remplissage apollonien, consiste à mettre des grains, remplir les vides par les grains les plus gros qu'on peut, qui occupent ces vides, et puis remplir les vides des vides. Et si on itère ça jusqu'à l'infini, eh bien on trouve que la porosité tend vers zéro, c'est-à-dire les vides tendent vers zéro, comme le rapport de la plus petite taille des grains sur la plus grosse, avec une certaine puissance. C'est-à-dire que plus vous allez prendre des grains de taille différente, plus vous aurez à faire effectivement un matériau qui sera très poreux. Il se trouve que j'ai reçu de François Delarare hier, justement, un rapport du LCPC qui s'appelle « Structure granulaire et formulation des bétons », qui est en fait un sujet extrêmement important. On vous parle beaucoup des grandes révolutions scientifiques. Il faudrait parler aussi des grandes révolutions technologiques. Et une grande révolution technologique a été la réalisation de ces bétons haute performance qui sont traités depuis une dizaine d'années, qui font la plupart des ouvrages d'art, et dans lequel on a à la fois mis des grains de taille très différente, on a soudé les grains, comme la nature sait le faire lorsqu'elle réalise du grès, par exemple, où on a des grains qui sont soudés entre eux, ou un béton. Et puis, il se trouve en plus de ça que ces grains réagissent. Et le résultat, c'est qu'on est tombé sur des matériaux assez exceptionnels, dont nous n'anticipions pas l'existence. Là, vraiment, la photo est beaucoup trop mauvaise. Je vais essayer de... C'est que... dans lequel vous avez des grains de taille très différente qu'on pourrait voir, ces matériaux ont très peu de porosité, l'eau n'y pénètre pratiquement pas, il n'y a pas plus de 3 ou 4% d'eau à l'intérieur, ils ont des résistances en compression qui arrivent à être 20 fois supérieures à celle des bétons ordinaires. Et en plus de ça, il résiste à la dilatation. Et je vous ai dit que paquet de café sous vide, dès le moment où on desserre les grains, dès le moment où on desserre les grains, personne n'a insisté. Et on m'a montré cet ouvrage d'art qui est en fait un pont, une passerelle en béton, très légère, et qui est telle, je n'ai pas marché dessus, que paraît-il, quand on se déplace dessus, elle est élastique comme le serait un pont métallique. Il n'est pas du tout inenvisageable, au jour d'aujourd'hui, de réaliser des ressorts en béton d'haute performance. C'est-à-dire des ressorts qui vont travailler à la fois en compression et en extension. Alors, ceci étant, je suis devenu, pour parler d'un matière molle, je me suis mis à parler d'objets très durs, donc je vais revenir au tas. Mais le tas est-il insolide ? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien non, il n'est pas insolide, et deux expériences vont nous le montrer très rapidement. La première, c'est montrer une existence de chaîne de force, et la deuxième, c'est un effet tout à fait classique que vous avez tous observé dans votre existence. Premier exemple, M. Dantu, ingénieur au laboratoire des ponts et chaussées, s'intéresse à réaliser l'ensemble suivant dans lequel vous mettez des cylindres les uns par rapport aux autres. On peut imaginer une sorte de tas de rondins de tailles différentes. On les a mis dans un récipient et on comprime le système par-dessus. Eh bien, si on peut se débrouiller, pas besoin de parler d'aspect technique, pour que on visualise là où les grains sont comprimés. Et on s'aperçoit que finalement, si on applique une force ici, qu'on est tenu sur le côté et sur le fond, on s'aperçoit que finalement, les forces ne se transmettent que sur un tout petit ensemble de grains. La plupart des grains sont libres. Nous le savons tous, quand on a un tas de rondins, c'est des fois très facile d'enlever des rondins au milieu, comme dans un jeu de Mikado, sans perturber l'ensemble. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va augmenter la force, eh bien, on va enrichir ces chaînes de force. Vous voyez bien, sur cet exemple, quelle est la limite de ce qu'on peut appeler l'homogénéisation ? Pour homogénéiser ce système, il conviendrait simplement de dire « je vais calculer la force qui existe entre deux grains que je comprime ». Ça, c'est un problème difficile de mécanique qui a été résolu par quelqu'un dont vous connaissez le nom, qui s'appelait Hertz, qui a fait ça quand il y avait 25 ans. Hertz, c'est l'homme des ondes hertziennes, c'est beaucoup plus intéressé. Donc voilà, si on dit « alors, je connais la mécanique de ce contact comprimé, mais maintenant, à partir de ça, est-ce que je peux en déduire la mécanique du tout, c'est-à-dire la mécanique du tas ? Eh bien, la réponse, elle est non. Le problème de Hertz, si je prends deux grains et que je les comprime, j'ai une certaine relation entre la force et la déformation, je trouve qu'elle est puissance 3,5, mais ce n'est pas très important, eh bien, si je prends l'ensemble, ceci est un travail qui a été fait par un de mes élèves, Stéphane Roux, qui est un ingénieur du corps des ponts, et finalement, la loi n'est pas du tout la même. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand je vais comprimer beaucoup de grains, ce qui va compter, ce n'est pas tellement le fait que deux grains individuels changent de loi de force. Ce qui va se compter, c'est le fait que je vais créer de plus en plus de chaînes. Donc, on voit qu'ici, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une vision globale et que la vision locale ne me permet absolument pas de savoir ce qui va se passer globalement. Alors, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé. En liaison justement avec ces mêmes idées de percolation, on voit bien que ce qui va compter, c'est le fait d'avoir des chemins continus, des chaînes de force qui vont transmettre les forces d'un bord à l'autre. Et on comprend aussi pourquoi, finalement, quand on réalise une voie, il faut passer très souvent le rouleau compresseur de façon à ce que, continuellement, en ayant des empilements de plus en plus compacts, il y ait de plus en plus de chaînes de force qui se développent et que le système soit mécaniquement bien utilisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vous ai dit, dans le cas des rondins, où je peux enlever des rondins, et effectivement, que le tas tient, eh bien, il y a ce qu'on appelle, tout banalement, un effet de voûte. L'effet de voûte, ce qui fait qu'effectivement, quand on va appliquer une force, eh bien, la force se répartit sur un ensemble de grains, et finalement, libère tous les grains qui sont en dessous. Et l'expérience serait facile à faire, et vous la faites, je dirais, quasi quotidiennement. Quand on va essayer de faire passer dans ici un certain nombre de grains dans un orifice limité, même si, surtout si ces grains sont des grains de forme non sphérique, eh bien on a très souvent le tas qui se bloque et on peut remarquer le fonctionnement d'un silo par exemple qui a ses problèmes en regardant que sur les bords du silo il y a toujours énormément de coups parce que la seule façon qu'on connaît pour pouvoir refaire démarrer un silo, c'est donner des coups à l'extérieur, donc ce n'est pas très scientifique. Mais ce qui est scientifique, par contre, c'est la description que nous arrivons maintenant à donner de la formation de ces voûtes et de la mécanique de ces voûtes. Et à ce propos, il est intéressant de savoir qu'on va toujours avoir le choix. Est-ce qu'on va essayer de comprendre les grains isolés? Est-ce qu'on va essayer de comprendre le tout, c'est-à-dire un milieu continu? Effectivement, quand je vais vouloir tout à l'heure regarder comment du sable s'écoule, j'ai envie de dire c'est comme un liquide, mais en l'occurrence, si je regarde comment une pierre tombe sur un éboulé, j'aurais envie plutôt de considérer les effets élémentaires. Alors je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je voulais vous montrer que ce n'est pas un bon solide, puisque c'est un solide extrêmement hétérogène. Et voici le deuxième effet que je voulais vous présenter, qu'on appelle la dilatance, effet découvert par Reynolds, le même Reynolds qui s'est intéressé à la mécanique des fluides. Et vous prenez l'expérience a été réalisée, celle-ci, par Jacques Durand, que j'ai déjà cité. Vous prenez un sac déformable, vous mettez des grains bien tassés et vous remplissez de liquide, vous le faites déborder et puis vous comprimez ce sac et oh, surprise, vous constatez que le niveau ne monte pas mais le niveau descend. Et la raison, c'est que le tas était bien tassé et qu'en pressant, vous avez été obligé de le desserrer pour déplacer les grains et vous avez absorbé. Et ça, l'expérience, évidemment, on l'a tous fait. Il suffit d'aller sur une plage à marée basse, une plage de sable mouillé, vous constatez évidemment très naturellement qu'en appuyant avec votre pied, le sable s'assèche, que le s'assèche autour de votre pied et que le dessous de votre pied vient humide. C'est-à-dire qu'en comprimant ici, vous avez finalement desserré les grains qui étaient sous votre pied et vous avez fait un espèce d'aspiration. Et de ce point de vue-là, cet effet est le contraire de ce qu'on obtiendrait si le sac n'était pas bien tassé. Voilà un effet qui est tout à fait important. Je vous ai dit tout à l'heure, de façon rapide, qu'on pouvait obtenir des empilements cristallins, des empilements denses, et que si, au contraire, on mettait les grains un peu n'importe comment, on obtenait des empilements qui étaient beaucoup moins compacts, avec beaucoup plus de défauts. En fait, il y a mille et une façons de faire un empilement pas bien rempli. La première consiste simplement à verser des grains dans un récipient, et là on obtiendrait un remplissage, disons 60% du volume si on utilise des grains tous de même taille. Ou bien on peut au contraire vouloir bien remplir. Et à ce moment-là, on pourrait obtenir quelques pourcents en plus. Eh bien, la grande différence, on va le voir dans la dilatance. Si vous avez un tas qui est bien rempli, eh bien, dans un sens, vous obtiendrez une compacité de 64% et vous obtiendrez l'effet de dilatance. Si vous avez un remplissage qui est mal fait, au contraire, en comprimant, vous resserrez. Et là, j'avais cité l'évangile de Saint-Luc, dans une parabole qui s'appelle la parabole de la mesure. Il dit « Prenez une bonne mesure, bien secouée, bien tassée, car de la façon dont vous donnerez, de la même façon, vous sera rendu. » Bien secouée, bien tassée. Si je prends cette chose-là, si j'ai mal rempli au départ, j'aurais beau comprimer, je n'arriverai pas à obtenir un bon remplissage. Donc, voici une physique compliquée. Nous ne maîtrisons pas actuellement correctement la description de tous ces états désordonnés de la matière. Et nous manquons, en début du XXIe siècle, d'une description des états désordonnés, des systèmes granulaires, comparables à celles que Boltzmann avait établies à la fin du XIXe siècle pour la physique statistique et la compréhension de la théorie des gaz. Alors, regardons maintenant plus franchement les écoulements de grains. On peut effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vouloir s'intéresser aux écoulements en s'intéressant soit au grain unique, soit au tout. Alors, au grain unique, on va essayer d'avoir une description plus particulière. Au tout, on va penser, par exemple, aux effets de faire une description qui ressemblerait à celle d'un liquide. Alors, je vais décrire deux systèmes. Le premier est deux systèmes dans lesquels on va penser à des écoulements liquides. Le premier serait celui d'une avalanche ou d'un éboulis. Bon, voici une qui n'est pas très bien représentée. Donc, voici une avalanche, et vous constatez déjà qu'il y a plusieurs avalanches sur cette avalanche. Il y a une première couche, il y a une couche fixe, une couche qui s'écoule comme un liquide, et puis au-dessus, il y a quelque chose qui a plutôt un comportement gazeux, qui est dû à une recirculation et que nous comprenons aussi. Et donc les avalanches sont un système complexe. Et on peut commencer à s'intéresser à l'avalanche en regardant comment un grain tombe. Voilà une expérience qui a fait l'objet d'une thèse à Rennes de Liliane Sanson il y a deux ans. Elle consistait à prendre un plan rugueux, fait avec des petites billes de verre, à faire tomber une grosse bille toute seule et à regarder comment la grosse bille descend avec un mouvement plus ou moins désordonné qui fait penser au jeu japonais de pachinko, là, dans lequel les billes vont tomber dans des cases et on va avoir une distribution qui ressemble tout à fait à ce qu'on appelle les distributions gaussiennes, c'est-à-dire une distribution comme s'il y avait une sorte de marche au hasard de ces billes. Alors on peut s'intéresser au contraire au tout. Voici un exemple très simple qui consiste simplement à avoir pris des tas de café. Vous constaterez donc que les grains sont très souvent des grains de l'alimentaire, parce qu'il y a une homogénéité à la fois de taille, mais pas nécessairement des grains sphériques. Et vous constatez ici qu'il y avait un tas qui était fixe et qu'on a augmenté légèrement l'angle du tas et qu'une avalanche s'est déclenchée. Alors, voilà une expérience qui nous apprend quelque chose. Elle nous dit finalement, si je vais essayer de comprendre cette avalanche, il va falloir que je comprenne qu'il y a deux phases. Des grains qui sont fixes, des grains qui sont mobiles, qui se comportent comme un liquide, un échange entre les grains. Et ceci a fait l'objet de travaux théoriques dans les 5 dernières années, qu'on doit d'une part au professeur Sam Edwards à Cambridge et à Degen et leur équipe, dans lequel on va comprendre les avalanches de façon continue en comprenant l'échange des zones mobiles et des zones fixes. Alors ça nous apprend un tas de choses. Ça nous apprend par exemple comment, finalement, quand on a un tas, si on craint une pelle, un mouvement avec une pelle et qu'on crée une petite marche, eh bien cette petite marche va remonter le tas. On comprend comment se font un certain nombre de choses sur ces systèmes. Et en particulier, une des choses qui va nous intéresser, qui a intéressé de beaucoup de personnes depuis Charles-Augustin Coulomb, voilà encore un nom qui est connu pour autre chose que ce que je vais dire. Coulomb est connu donc pour les lois de l'électrostatique. Eh bien Coulomb, qui était ingénieur militaire, s'intéresse aux problèmes de fortification, s'intéresse à des problèmes de taille, s'intéresse en particulier à l'angle limite de stabilité d'un tas de sable. C'est-à-dire que quand vous versez du sable, eh bien, à différence de l'eau, si vous versez de l'eau, une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, l'eau déborde, et le sable, il va tenir jusqu'à un certain angle θ. Et on voit bien de ce point de vue-là que même si banalement ou naïvement j'ai pu penser que ceci représentait un liquide, on voit bien que là, c'est une caractéristique qui n'est plus du tout celle d'un liquide. Alors cet angle-là, qui est l'angle limite, il va bien sûr dépendre des grains que je considère, mais il sera relativement constant, même quand je continue à faire, à charger ce système. En fait, un concept donc, que je ne vais pas décrire, mais qui a fait, lui, couler beaucoup d'angles dans les 10 dernières années, c'est celui de ce qu'on appelle la criticalité auto-organisée. C'est-à-dire l'idée, c'est que cet angle, c'est un angle critique, un certain angle qui va définir une sorte de limite de la stabilité de ce tas, mais qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, l'angle restera le même. En fait, cette idée était due à un physicien américain qui s'appelle Perbach. Elle est importante, mais le tas de sable joue plutôt le rôle d'une métaphore, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a deux angles limites. Quand je vais faire un tas, il va monter jusqu'à un certain angle, et puis quand il va dépasser cet angle-là, il va avoir des avalanches qui vont se produire, et il va redescendre à un second angle légèrement inférieur de quelques degrés. Donc, pour que cette notion d'angle critique s'applique, il aurait fallu qu'il y ait un seul angle là-dessus. Alors, un tas de choses étonnantes se passent dans ce mauvais liquide. Il est aussi mauvais liquide qu'il était mauvais solide, ou liquide pathologique. C'est le phénomène de ségrégation. D'habitude, quand vous faites de la mécanique des fluides, j'ai écrit un livre d'ailleurs avec un ami, avec Jean-Pierre Hulin, sur ce mélange. Quand on va faire de la mécanique des fluides, des écoulements, on prend des systèmes hétérogènes, on touille et on mélange. On pourrait dire entropiquement, parce que les gens aiment beaucoup ce concept-là. Effectivement, on augmente le désordre. Eh bien, c'est tout à fait le contraire qui se passe ici. Si vous mettez sur un plan incliné des grains qui sont différents, de nature différente, eh bien, en bas du plan incliné, les grains se seront séparés. Oui, ici, c'était une promenade que je faisais en montagne, Montviseau, mais vous l'avez tous vu partout. Si vous regardez effectivement un éboulis, vous constatez que les petits grains restent en haut et que plus on descend, plus on a affaire à des grains qui sont important. Alors, un certain nombre de mécanismes jouent, que je ne vais pas décrire, mais on comprend déjà que les petits grains vont pouvoir passer entre les gros grains, être bloqués, ou même ce qu'on appelle percoler entre les gros grains, ou que les gros grains vont aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, on tombe sur une situation tout à fait étonnante, que, alors que en mécanique des fluides, on aurait tendance à mélanger par des écoulements, ici on sépare. Même c'est l'expérience qui est beaucoup plus spectaculaire encore, qui consiste à mettre des grains de sable, un mélange de sable et de sucre, qui est versé dans un système, dans un plan incliné, et on constate qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le sable et le sucre ont fait deux choses. Ils se sont séparés, ils ont d'une part fait des couches alternées de sable et de sucre, en plus de ça, ils ont fait un sédiment. Et ça, vous retrouvez des choses que nous trouvons en géologie, quand vous regardez des faciès de roches sédimentaires, vous trouvez qu'effectivement, très souvent, vous avez des strates. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a les angles limites des avalanches, les fameux angles θ, ne sont pas les mêmes pour les deux espèces. C'est un problème qui a été bien compris à Boston par Gene Stanley et Arnold Mask. Le dernier exemple que je vais prendre, celui-ci était un exemple de liquide, de ce mauvais liquide en avalanche. Combien vous me donnez ? Le deuxième exemple, c'est le cas d'un tas vibré. J'aurais pu prendre bien d'autres exemples, mais si nous voulons ressembler à un gaz, j'aurais envie de dire, prenons des grains, secouons-les suffisamment fort, esquons-les suffisamment fort pour que finalement l'accélération qu'ils vont recevoir vers le haut soit plus grande que la pesanteur. C'est ce que nous faisons, ce que je ne fais pas, mais ce qu'on peut faire sur un jeu de trampoline. On va décoller parce qu'on va effectivement arriver à battre la pesanteur. Eh bien, si ce paramètre A oméga 2 représente l'accélération due à ça est suffisamment plus grande que la gravité, le système va se lever. On peut le faire avec un seul grain, on peut le faire avec une chaîne de grains, on peut le faire avec un plan. En fait, on pourrait dire qu'on a affaire à un gaz. Effectivement, ces particules, ces grains ont une agitation. En fait, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces grains ont une agitation, mais cette agitation, elle ne les maintient pas du tout à l'horizontale, elle les fait sauter et elle fait des formes qui avaient été observées par Faraday, vous voyez encore un des grands noms de la physique qui s'occupe de la petite science. Et ce qu'on appelle la crispation de Faraday, c'est qu'en faisant vibrer ce tas, eh bien, on trouve qu'effectivement, il va former des structures qui sont des structures souvent très régulières et qui sont des structures pas du tout horizontales. Ceci étant, même type de phénomène se retrouve dans les liquides. Et alors, ce qui va être étonnant, c'est que de nouveau, ici, nous allons retrouver ces effets de ségrégation. On aurait pu penser qu'en secouant notre tas, nous allions réaliser un mélange si nous avons des grains différents. Eh bien, ce n'est pas vrai, on obtient exactement le contraire. Et voici un exemple tout à fait classique. C'est une expérience numérique. Comme je vous ai raconté qu'on avait fait beaucoup d'expériences numériques en utilisant ce qu'on savait faire sur des liquides au niveau microscopique pour travailler sur des objets plus gros, vous avez une bille grosse au milieu d'autres billes. La simulation numérique simule les chocs, simule les contacts, et elle montre en particulier ce que vous pouvez très bien faire chez vous aussi, que la grosse bille va monter en surface, et une fois qu'elle sera en surface, restera. On sait tous effectivement que le fond d'un paquet de cornflakes est beaucoup moins agréable que la partie supérieure, parce que les petits grains sont allés en bas. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce sujet a été appelé effet noix du Brésil parce que dans un article de la très sérieuse revue qui s'appelle Physical Review Letters, on a vu arriver un article qui s'appelait « Pourquoi les noix du Brésil remontent à la surface ?» Vous savez que les noix du Brésil, c'est des grosses noix. Et alors, si on met un mélange de noix de taille différente que vous secouez, bien, au bout d'un certain temps, ces noix remontent. Alors, il y a deux mécanismes. Il faut toujours se méfier quand il y a plusieurs mécanismes. On se demande s'il y en a qui est meilleur que l'autre ou si ils sont ensemble. Premier mécanisme, si je prends des grosses noix et des toutes petites, eh bien on voit bien qu'en vibrant, quand les grosses noix vont pouvoir monter, les petites vont pouvoir descendre. On peut dire que ce n'est pas de la science. Effectivement, ce n'est pas de la science. On en fait des simulations, on en fait des expériences numériques, on comprend quel le rapport des rayons suffisant pour que ça se passe, et finalement, c'est quand même de la science. Mais il y a un autre effet, ça c'est un effet, je dirais, qui est un effet qui est dû au fait que les grains ont des tailles différentes, et l'autre effet qui est plus compliqué à comprendre, mais aussi tout à fait présent, c'est quand vous secouez un tas, vous avez un mouvement convectif, un peu comme le mouvement de l'eau dans une lessiveuse, et que ce mouvement convectif, en fait, fait monter l'ensemble des gros grains et des petits grains. Le premier, c'est un effet différentiel, les gros montent alors que les petits descendent, et le deuxième, c'est que les gros et les petits montent ensemble, font un mouvement, c'est ce même mouvement qui fait dans la crispation de Faraday qui va donner ses formes irrégulières, et une fois que les gros grains sont en surface, ils restent. Alors, ceci étant, il y a d'autres mécanismes. Nous savons tous que dans les champs, nous voyons arriver après l'hiver des grosses pierres, et c'est un mécanisme différent, mais qui est de nouveau un mécanisme que nous comprenons assez bien maintenant. Alors, il y a un autre exemple, et je vais peut-être terminer par une science peut-être plus importante au point de vue application, un autre exemple de comportement gazeux que je mentionne simplement, je le mentionne d'ailleurs avec un certain étonnement. Ce système s'appelle un lit fluidisé. Les lits fluidisés sont des dispositifs extrêmement intéressants et importants dans l'industrie, consistent à soulever un ensemble de particules dans un gaz par un courant ascendant. Si vous soufflez vers le haut pas assez fort, vous avez les grains qui sont tenus par une petite grille inférieure ne bougent pas. Et puis, si vous soufflez beaucoup, vous avez quelque chose qui ressemble à un liquide ou un gaz. Alors, c'est tout à fait étonnant. Quand vous mettez les mains dessus, vous avez vraiment la consistance qui est celle d'un liquide. C'est ni un liquide, ni un gaz. C'est un état particulier. Alors, si je mentionne le côté étonnant, c'est justement, puisqu'on est ici à l'UTLS, c'est que si vous regardez Encyclopédia Universalis, le mot n'est même pas défini, alors même qu'il a une importance colossale, à la fois dans tous les problèmes de combustion de poussière ou de systèmes granulaires et dans tous les systèmes actuellement de catalyse hétérogène. Dans tous ces systèmes, on cherche à avoir de la matière très divisée, on a la matière très divisée, et on cherche à la faire réagir, dans le cas de la combustion, avec l'oxygène, de l'air qui ascendant, donc à les disperser le mieux possible. Dans le cas de la catalyse, on cherche à faire réagir, par exemple dans les méthodes de cracking de pétrole, à faire réagir des espèces en contact le plus intime possible avec le catalyseur, et on cherche à le faire de façon homogène. Et une des questions d'ailleurs qui se pose pour nous, pour les scientifiques, c'est qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est un peu comme un liquide qu'on fait monter. Si on n'y prend pas soin, au lieu de monter de façon homogène, il monte avec des bulles. Et ces bulles peuvent exploser, effectivement, faire sauter le lit. Bon, je voulais terminer par ça aussi pour vous montrer que finalement, la science, les techniques ne sont pas bien présentes dans la science. Que ce lit fluidisé, dont la définition n'existe dans aucun des dictionnaires que j'ai vus, et qui concerne toute l'industrie des systèmes divisés, est certainement quelque chose qui est important. Dans la revue d'EDF, il y a 3 mois, il y avait un numéro total consacré à ces problèmes de lit. Alors, je vais m'arrêter là, parce que j'aime bien tenir mon temps, donc ça doit être à peu près le moment. Oui. Et je vais m'arrêter en vous disant que j'ai pas dit grand-chose. Vous en êtes aperçu d'ailleurs, et beaucoup et pas grand-chose. Parce que j'ai essentiellement négligé de vous parler des interactions entre grains. Je vous ai parlé d'une seule interaction entre grains. Je vous ai dit, je vais regarder ce qui se passe quand 2 grains sont en contact. Éventuellement, j'ai accepté de vous dire, Monsieur Hertz avait compris comment 2 grains se déforment quand on les applique l'un contre l'autre. Mais en fait, c'est quand même très insuffisant, parce qu'il y a beaucoup d'autres façons pour des grains d'interagir. Nous le savons très bien, si j'ai pas les grains vont pouvoir interagir par des effets électrostatiques. Les grains humides vont interagir par des effets capillaires, c'est-à-dire que si entre les grains j'ai un tout petit pont d'eau, le pont d'eau va créer une petite force d'attraction. Moi, j'ai une petite fille de 6 ans qui m'a fait une théorie tout à fait remarquable l'an dernier sur le pâté optimal, dans lequel elle montrait effectivement la quantité d'eau qu'il fallait effectivement pour que le pâté tienne plus longtemps que les miens. Eh bien, il ne faut pas trop d'eau, parce qu'effectivement, si vous mettez d'eau, vous saturez entre les grains, il faut créer des petits ponts capillaires. Et puis, ça, on peut dire que c'est amusant, mais le cas probablement le plus important, c'est le cas des interactions chimiques entre petits grains. Et le cas de ces interactions chimiques entre petits grains va être dominant toutes les fois qu'effectivement, j'aurai des grains qui vont être typiquement plus petits qu'un micromètre. Et à ce moment, les effets des forces entre grains, ce qu'on appelle par exemple les interactions de Van der Waals, vont devenir, ou les effets de potentiel entre grains vont devenir importants et vont faire que l'organisation des grains ne ressemblera plus du tout à celle, effectivement, de mésempilement. Je vous en montre un seul exemple typique qui correspond à ce qu'on appelle un objet fractal. Voici un agrégat de particules colloïdales d'or. Ce sont des tout petits grains qui font, vous voyez, à peu près une cinquantaine de nanomètres. Et avec la façon dont les objets sont empilés, ne ressemblent plus du tout à nos empilements, qu'ils soient ordonnés, qu'ils soient désordonnés. Et de ce point de vue-là, le sujet que je n'ai absolument pas traité, que je n'ai pas abordé, même si je vous ai parlé de physico-chimie au début, je n'ai parlé en tout et pour tout que de mécanique et de physique, c'est évidemment toute cette grande science qui est la science colloïdale, qui est la science qu'on retrouvait au début dans la cuisine, et qui est cette science des objets dans lesquels les effets physico-chimiques vont jouer un rôle dominant. Merci.
Est-ce qu'il y a une relation entre le phénomène de renardage dans les lits fluidisés et les chaînes de pression que vous avez montrées lorsqu'on applique une pression, les chaînes de force? Ça a à peu près la même allure. J'avais plus jamais les chaînes de force, ça a à peu près la même allure. Est-ce que c'est le phénomène négatif?
En fait, dans les lits fluidisés, nous comprenons très mal les formations des bulles. Il est tout à fait clair qu'à un moment donné, on a l'impression que ce qui se passe quand on a former une bulle, qui sont des bulles qui sont en permanence en train de se faire et se défaire, c'est probablement qu'un certain nombre de grains sont relativement en contact, et que les bulles, c'est que vous avez des zones pratiquement vides de parties de grains entourées de zones relativement assez denses. Et je pense qu'à l'intérieur des bulles, en plus de ça, il y a comme dans des vraies bulles de gaz dans un liquide, des recirculations d'air. Donc le problème des bulles est mal compris, le problème des instabilités des liés mal compris. Les descriptions qui ont été faites du monsieur qui s'appelle Adamson, enfin toute une école hollandaise qui est très forte là-dessus, a essayé de comprendre ces problèmes d'instabilité de lits fluidisés qui, je vous l'ai dit, peuvent être totalement catastrophiques pour le fonctionnement industriel en termes du comportement d'instabilité comme des liquides, comme des instabilités qu'on appelle des instabilités convectives. Je crois qu'on connaît très mal encore l'organisation qui est parfaitement changeante. Mais il n'est pas du tout impossible qu'il y ait effectivement des correspondances avec les histoires de chaînes de force. Mais j'en sais pas plus.
Monsieur.
Bonjour monsieur. Je voulais vous demander si l'étude du comportement du tas de sable a des applications pratiques par des équations de simples applications dans le calcul des pressions dans les silos. Et qu'en est-il lorsque les silos sont soumis aux vibrations sismiques?
Oui, alors je ne peux pas vous dire une vibration sismique, mais effectivement, l'objectif, il est de comprendre comment améliorer les régimes d'écoulement dans ces silos. En particulier, si vous prenez un silo, eh bien, suivant l'angle d'ouverture du silo, vous pouvez avoir des régimes d'écoulement extrêmement différents, où dans certains cas, l'écoulement granulaire va se faire par les côtés, dans d'autres cas, de façon homogène. Nous comprenons assez mal ces choses-là. Et ce que vous dites en plus de ça, l'effet des vibrations, comment les vibrations améliorent les écoulements, nous les décrivons encore très très mal. Je crois que si vous voulez, on a affaire à une vieille science du point de vue de technique, à une science finalement extrêmement jeune du point de vue effectivement des connaissances fondamentales. Ce que je vous ai dit sur les avalanches, les travaux au Collège de France et à Cambridge, sur les avalanches, on est en train de prendre le problème le plus simple qu'on puisse imaginer, savoir comment effectivement une couche superficielle s'écoule au-dessus d'une couche finie. Maintenant, comprendre à l'intérieur d'un silo comment les choses se passent, je ne sais pas du tout s'il y a eu du travail. Il y a des descriptions, beaucoup d'expérimentations numériques. L'expérimentation numérique a pris un poids considérable. Elle présente une certaine faiblesse. C'est que très souvent, les gens font des expérimentations numériques sur des modèles bidimensionnels. C'est-à-dire, on regarde une seule couche et effectivement, on sent très bien que les modèles tridimensionnels sont différents. On sent très bien que former sur un système à deux dimensions forme une voûte et continue est probablement beaucoup plus probable que de former une voûte continue sur un système à trois dimensions, sur un véritable entonnoir. Donc, je ne suis malheureusement pas capable de vous donner de réponse. Je crois qu'effectivement, nous comprenons qu'effectivement, nous avons d'une part un régime de l'écoulement de grains, où les grains restent essentiellement en contact avec les uns avec les autres, qui est un régime cohésif, et puis un régime, au contraire, à l'autre limite, où au contraire, les grains sont très peu en contact, ont des chocs, et se promènent et passent peu de temps en contact. Et là, vous êtes en train de me dire un cas qui est un peu intermédiaire. Les grains sont en contact à ceci près que finalement, par ces vibrations, on les désolidarise en permanence. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas bien, qui est pas traité.
Madame.
Oui, ma question porte sur la science empirique de votre petite fille. Parce que quand j'ai vu la projection des châteaux de sable, je me suis dit, je vais savoir quelque chose. Et vous l'avez abordé à la fin. Mais ma question porte sur le mélange sable-eau et sur la qualité du sable et la teneur saline de l'eau. Parce que, parce que les châteaux merveilleux que vous avez montrés, nous en avons vu des concours comme ça, somptueux, dans un endroit très précis de la planète où le sable a une qualité, j'allais dire, chantante quand on marche, n'est-ce pas ? On entend le sable.
Oui.
Et voilà, donc j'aimerais savoir.
Oui, alors ça, je ne peux pas vous dire pour le sel. Pour l'eau, il est évident, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits théoriques sur ce qu'on appelle les gouttes pendulaires. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir comment ces différentes petites ponts d'eau entre les grains se connectent ou se connectent pas entre eux. Il y a d'ailleurs un travail par Davis à Minnesota et Degene à Paris qui a essayé de regarder une sorte de transition de percolation. C'est-à-dire, si vous mettez peu d'eau, finalement, chacun de ces petits ponts va être indépendant l'un de l'autre. Et puis, si vous en mettez un peu plus, ces petits ponts vont connecter entre eux et finalement, vous allez déjà perdre de la cohésion. Maintenant, quant à l'effet du sel ou la qualité du grain, ce que je peux dire pour ma petite-fille, ce qui était très clair, c'est qu'elle préférait mettre un peu moins d'eau qu'il fallait, quitte à en rajouter un petit peu quand elle avait mis son temps en place. Donc, il faut en mettre plutôt moins que plus. Mais franchement, ça, je vous invite à prendre quelques vacances encore. Parce que... moi, j'ai vu à Copacabana, justement, où les gosses des rues, les criados, ils leur font faire tout au long de Copacabana et d'Ipanema des châteaux qui sont extraordinaires, alors qu'ils sont évidemment qui pulvérisent d'eau régulièrement pour pouvoir éviter qu'ils s'effondrent trop vite.
Monsieur.
Bonsoir, monsieur. Moi aussi, je suis encouragé par l'exemple de votre petite fille. Donc, je me permets de vous poser deux questions très enfantines sur les comportements de sable. En hiver, quand la route est verglacée, on sable pour que les rues augmentent l'adhérence. Tandis qu'à Fontainebleau, on peut voir une scène très pittoresque. Des gens qui vont faire l'escalade sur le rocher, ils apportent un petit torchon et un petit tapis.
On appelle ça du pop-off.
Oui.
Du pop-off.
Oui. J'ai fait ça. Avant de faire l'escalade, on nettoie minutieusement la surface de rocher. En même temps, on nettoie aussi minutieusement les semelles de chaussons d'escalade.
Donc, oui, on a un petit tapis.
Oui. Donc, enlever le sable augmente l'adhérence. Donc, il y a une contradiction l'un pour l'autre, pour moi.
Non, je ne crois pas, j'ai l'impression. C'est une contradiction apparente. J'ai l'impression que, finalement, ce qui doit se passer, c'est que cette route verglacée, sablée, le sable, effectivement, doit plus ou moins les grains doivent se souder, doivent avoir une sorte de fusion locale, et donc on a une surface qui est une surface rugueuse. La surface rugueuse, le grimpeur aime cette surface rugueuse. Si le grès, finalement, le fait d'accrocher, moi j'ai grimpé beaucoup d'années dans ma vie, mais le fait d'adhérer au grès me semble très positif. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les grains soient lâches. Et c'est pour ça qu'on les balaye et qu'on balaye le côté de ses chaussures, de ses chaussons. C'est pas parce que les grains ne sont pas attachés, mais si les grains sont attachés, d'avoir une surface rugueuse, c'est plutôt favorable.
Et la deuxième question
concerne un peu l'art culinaire. En fait, les Français sablent le champagne. Quel rapport y a-t-il entre le sable et le champagne? Merci, monsieur.
Jean, on sait sabrer le champagne. Tu sais faire. Mais c'est, est-ce que c'est sablé ou sabré? C'est sabré, le champagne. Mais c'est pas... Je sais sabrer le champagne et je pense que mon collègue de l'autre école doit avoir appris aussi. Il faut simplement avoir un coup tangent très, très clair et très fort. Et c'est pas sablé, le champagne.
Alors, monsieur.
Je voudrais vous demander ce que vous pensez personnellement des extrapolations de cette physique à la sociologie et même à la politique, c'est-à-dire en particulier à ce qui s'est fait à un moment et avec les dangers, les conséquences scabreuses que ça a eu avec le bon, vous savez, la psychologie des foules, etc. Et en particulier, question qui n'est pas vraiment subsidiaire, mais qui découle de la première, qui découle, c'est le cas de le dire, est-ce que vous considérez que la démocratie, parmi ces cols, fait partie des cols normales mais supérieures?
Vous me fatiguez. J'ai toujours essayé. Je travaille dans une école dans laquelle il y a des scientifiques, des sociologues, des économistes. Je considère qu'effectivement, l'interpénétration des champs de recherche est quelque chose de tout à fait fascinant. C'est un jeu, c'est un exercice. Mon ami Hervé Lebras s'intéresse à des problèmes de sociologie, de géographie, et qui a appliqué des modèles fractales. On peut aussi penser à regarder un petit peu des comportements collectifs en disant, eh ben, je décris quelque chose comme un tas, j'ai des comportements moyens et puis des comportements individuels. Tant qu'on en reste à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, c'est un amusement, c'est métaphorique, mais si on veut l'utiliser comme un argument d'autorité pour dire, puisque les scientifiques ont montré ceci, ça doit être vrai en sciences sociales, à ce moment-là, je crois qu'il faut dire, halte là, on s'arrête. Mais tous les jeux sont permis. À mon avis, en science, c'est un peu ce que j'ai appris, et j'ai eu la chance d'être le premier élève de Degen, et j'ai appris ça de lui. Qu'effectivement, dans la science, il y a un jeu. Nous étions tous les deux des grands fanatiques de Carl Jung, quand nous étions jeunes, et l'inspiration vient comme elle peut, comme elle veut. Un polytechnicien a découvert des ciments de fibres sur la plage en mélangeant des grains de sable et des petites aiguilles de pin. Et il a montré, j'en ai pas parlé aujourd'hui, il a montré qu'effectivement on pouvait énormément augmenter l'angle limite du tas de sable. C'est un jeu et c'est effectivement quelque chose de très utilisé dans les ponts et chaussées. Et de la même façon, on peut très bien utiliser nos idées scientifiques pour pouvoir jouer avec des gens qui font des sciences sociales. Simplement, n'utilisons pas ça pour dire « ça prouve que ». Le moment de la preuve est un moment très rigoureux, très sérieux, quelles que soient les démarches que nous avons pu faire avant.
On va prendre encore deux questions ici et puis là-haut.
Quand vous dites tout est possible, je me rends compte qu'effectivement, dans les matériaux que crée l'homme depuis au fil du temps, il y en a de plus en plus, et une accélération depuis nos connaissances, 19e siècle, 20e siècle, par les connaissances de physico-chimie. Je voudrais rappeler, entre autres, que néanmoins nos anciens Égyptiens, quand ils ont découvert l'encre de Chine, qui était à la base un colloïde, hein, une émulsion de cendres de fumée dans de l'eau, et puis ils ont trouvé le moyen de fixer, de stabiliser par la gomme arabique. Bon, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, société humaine, on a une possibilité infinie, je crois qu'il faut aussi que les gens se rendent compte de ça, de combiner les éléments que la nature nous apporte, une combinaison infinie. Mais néanmoins, je dirais, il y a quand même un problème d'éthique, on ne peut pas néanmoins faire n'importe quoi ces combinaisons, et c'est ça que je voudrais aussi que nous parlions ensemble. Parce que nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes d'environnement, je dirais, soit de conservation de la matière, des ressources que nous met à disposition la nature. Donc, quand on fait une transformation, ma question, c'est néanmoins, on a un choix à faire pour les matériaux que nous élaborons, et quels sont les critères de ces choix pour, au besoin, faire cette transformation réversible ou au moins que ça soit recyclable, etc.
Oui, je crois que vous avez raison. Il me semble qu'avant tout, Il faut effectivement, la science est au service de l'homme, c'est facile à dire. Je pense en particulier, ce que je n'ai pas du tout dit aujourd'hui, parce que nous commençons à peine à travailler là-dessus avec les outils qu'on a, comprendre des problèmes d'ensablement, comprendre des... Nous intéressons depuis 3-4 ans aux problèmes de mouvement de dunes, les problèmes de désertification. Donc on se trouve tout à fait naturellement, et je pense que c'est pas, le sujet n'est pas unique, on se trouve déjà tout à fait naturellement, on se trouve confronté avec des problèmes qui sont des problèmes de notre environnement, qui sont des problèmes ou des problèmes d'ailleurs de société. Donc je n'ai pas besoin de chercher midi à 14h, je regarde déjà qu'est-ce qui est autour de nous. Nous ne comprenons toujours pas qu'est-ce qui définit la vitesse d'avancée d'une dune. Nous commençons un peu à comprendre qu'est-ce qui définit sa forme, comment elles sont organisées. Ce sont des problèmes, nous évidemment, nous voudrions comprendre les meilleurs moyens pour l'arrêter. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour choisir les problèmes qui sont des problèmes de société, qui sont des problèmes au service de la personne. Oui, j'ai pas parlé de polymères. Je pense que l'exemple que vous avez donné en langue de Chine est un merveilleux exemple que Degène aime à citer sur cette utilisation d'agents stabilisants. Je pense qu'aussi, dans le génie culinaire, on sait très bien que faire une sauce mayonnaise, c'est pas très difficile. Stabiliser le beurre dans une sauce hollandaise est beaucoup plus délicat. Et là aussi, il y a des problèmes d'agents stabilisants qui sont des problèmes difficiles. On est encore, on peut dire, au service de la personne, à mesure où on réalise une bonne sauce.
Oui, alors je prends la parole parce que tout simplement on a parlé de silo de sucre et j'ai été mêlé à la construction d'au moins un silo de sucre.
Oui.
Alors, nous sommes en face en fait d'une physique qui commence, qui est certainement balbutiante au niveau des théories, mais en face de process technologiques vieux et généralement éprouvés. La réponse, elle est de deux ordres. Côté installation, on ne s'amuse absolument pas à prendre autre chose que des équipements qui ont donné lieu à des expérimentations à dimension réelle et en temps réel pour toutes les manipulations qui ont affaire à de la matière molle. Point 1. Point 2. Pour des opérations relatives industrielles de grande importance, on arrive même à construire des usines à coût de milliards qui s'appellent tout simplement des unités pilotes. Merci pour votre attention.
Je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, on peut travailler à l'échelle 1, mais je pense aussi que dans la science, nous apprenons à travailler à des échelles réduites. Par exemple, pour m'être intéressé à des problèmes de construction ou des problèmes de type laboratoire central des ponts et chaussées, on va tester des problèmes de vieillissement de poutres, non pas sur nécessairement l'arche de la défense, mais sur des systèmes modèles. Effectivement, la difficulté, et là on rejoint le point scientifique que j'ai essayé de faire tout à l'heure sur ces effets d'échelle multiple, il est nécessaire, indispensable, que nous puissions faire autre chose que travailler sur des systèmes à l'échelle 1. Partout. Je ne dis pas qu'on reproduira toutes les caractéristiques du système à l'échelle 1, mais on n'aura pas toujours la possibilité de réaliser un modèle à l'échelle 1 pour faire quelque chose à l'échelle 1. Donc je suis bien d'accord avec vous, en tout cas, le point sur lequel je partage tout à fait, je dirais, votre intervention, c'est qu'effectivement, il ne faut pas, sous prétexte que nous arrivons dans un ensemble de sujets qui ont été très largement traités, où il y a une expérience, il y a des sciences, il y a des techniques, jouer aux petits découvreurs qui ignorent complètement ce qui s'est fait. Je crois qu'il n'y en est pas du tout question. Moi-même, je travaille dans des conseils scientifiques d'entreprises dans lesquelles ces problèmes sont traités. Nous sommes des petits-enfants dans ces sujets-là. Nous sommes des petits-enfants devant les gens qui font de la science des sols, de la pédologie. Nous sommes des petits-enfants devant des gens qui font des matériaux de construction. Néanmoins, je pense que le petit plus que nous pouvons ajouter par la modélisation, par les effets d'échelle, par la physico-chimie, peut être un plus qui, effectivement, ne remet certainement pas en cause tout le savoir-faire dont vous avez parlé.
Merci.